Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Aujourd'hui, Mare Nostrum, un voyage des langues à travers le temps et l'espace de ce continent liquide qu'est la Méditerranée. Nous sommes en compagnie du linguiste Louis-Jean Calvet qui publie « La Méditerranée, mère de nos langues ». Et tout à l'heure, un petit bonus, nous aurons au téléphone Michel Barcelot, un méditerranéen des images et du visuel qui inaugure deux expositions à Paris.
Ti amo, un soldo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo. Che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo.
La Méditerranée depuis plus de 3000 ans, ce n'est pas seulement un creuset des peuples et des empires, c'est aussi un formidable laboratoire des langues. Et il se peut que le scénario de ces langues, qui ont abouti à celles que nous parlons aujourd'hui, n'épouse pas exactement, trait pour trait, celui de l'histoire, avec un grand H, si l'on en croit le formidable voyage à travers le temps que vous nous proposez, Louis-Jean Calvet, bonjour.
Bonjour.
On trouve dans ce livre comme des histoires parallèles, des replis, des survivances, des manières singulières de cheminer qui viennent en quelque sorte compléter le grand scénario de l'histoire et en livrer, je dirais, une version backstage, une version avec des chapitres qui ont été occultés.
Backstage, c'est renvoyer les langues un peu derrière.
Bah backstage, c'est aussi là où un point de vue sur la scène
absolument.
Qui est différent.
Vous voyez. Absolument. Hein. Quand la vie est sur scène, on est pas mal juste derrière.
Voilà. Et vous le savez puisque vous êtes aussi un spécialiste de la chanson.
C'est-à-dire que l'immense historien qui était Brodel n'a pas parlé des langues. Et je dois dire très peu. Très peu. Bon. Et j'ai beaucoup lu Brodel et je l'ai relu, bien entendu, pendant les 5 ou 6 ans. Au cours desquels j'ai travaillé sur ce livre. Mais c'est vrai que l'histoire des peuples, c'est aussi l'histoire des langues qu'ils parlent, et l'histoire des migrations, des empires, enfin des expansions, sont aussi des histoires linguistiques. Ne serait-ce que parce qu'elles laissent des traces, non seulement dans les autres langues, mais aussi dans les toponymes, dans les noms de lieux, on bâtit sans arrêt quand on débarque quelque part.
Alors vous, Louis-Jean Calvet, vous avez abordé cette histoire donc comme un grand spécialiste. Vous êtes sociolinguiste, en fait, pour être complet. Vous avez publié une quantité impressionnante d'ouvrages, une trentaine, qui ont pour caractéristique d'alterner entre des ouvrages savants et des ouvrages grand public. Et le dernier, je dirais, La Méditerranée, mère de nos langues, est un petit peu entre les deux, parce que c'est un ouvrage avec énormément d'informations, mais en même temps qui nous guide à travers ce grand film de la Méditerranée des langues.
Mais c'est-à-dire que vous disiez savant au grand public, j'écris comme je faisais cours quand j'étais prof de fac.
Il y a quelques années, à Aix-en-Provence.
À la Sorbonne d'abord, puis à Aix-en-Provence. Je veux dire que je prends au sérieux mes auditeurs ou mes lecteurs. Je ne cherche pas à les assommer sous une science qu'ils ne comprendraient pas. Il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Il ne faut pas trop simplifier. Il faut leur expliquer des choses qu'ils sont capables de comprendre. On les prend par la main, finalement, pour les amener là-dedans. Et c'est vrai que les gens, le phénicien, l'hébreu, ils n'en savent pas grand-chose. Mais quand, à partir de sources scientifiquement solides, on leur explique simplement des choses, c'est toujours un grand plaisir que de voir les gens vous suivre et vous comprendre.
Alors, ce qui semble caractériser la Méditerranée, pour rester déjà au grand angle, après on va aller vers des mots spécifiques qui disent quelque chose. Quand on ouvre au grand angle, on a l'impression, en vous lisant, à travers votre approche donc linguistique, que la Méditerranée est tout de même une sorte de vase clos pendant très longtemps. Pas totalement clos, mais que c'est vraiment un univers en tant que tel. Et c'est comme ça que vous vous abordez, c'est comme une immense marmite dans laquelle ça bouillonne.
C'est d'abord une petite marmite. Oui. Je veux dire qu'aujourd'hui, on considère, on a appris en classe la géographie, la Méditerranée, mais il y a 3 millénaires, il y avait essentiellement la mer Égée. Hein, tout commence par là, avec les Phéniciens, c'est l'actuel Liban, si vous voulez, et puis les Crétois, etc. Et peu à peu, il y a une sorte, ce que j'ai appelé une méditerranisation, la Méditerranée, ça s'étend avec différents empires. Les uns sont plutôt en bas, au sud, hein, de l'est vers l'ouest, ce sont les Arabes. Les autres plutôt en haut, les Grecs. Et puis ce sont les Romains qui vont faire tout le tour de la Méditerranée. Donc peu à peu, ça s'agrandit. La géographie ne change pas, mais l'occupation culturelle et humaine varie sans arrêt.
Donc elle ne devient elle-même, Mare Nostrum d'ailleurs, qu'au moment de l'Empire romain.
Oui,
en tant qu'entité.
Justement, Mare Nostrum, en latin, notre mer, c'est presque une déclaration de propriété, hein, c'est notre mer. Et ce dont je parle, moi, c'est linguae nostrae, nos langues, finalement. Quand on y réfléchit, si vous prenez simplement le français et l'espagnol, vous couvrez l'Amérique latine avec l'espagnol, une partie de l'Afrique avec le français, ajoutons-y le portugais qui n'est pas vraiment méditerranéen, et vous avez le Brésil. Donc de là, ces langues-là sont parties un peu partout, se sont étendues. Et nos langues, elles se sont sans arrêt frottées les unes aux autres, hein, un peu comme des électrons, vous voyez. Et on peut lire linguistiquement le souvenir de ces frottements.
On va parler justement de l'histoire, de l'évolution, puisque votre travail nous éclaire, nous qui ne sommes pas linguistes, sur l'histoire, par exemple, de la création de l'alphabet. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que dans cette approche linguistique, il y a aussi quelque chose d'un laboratoire. C'est-à-dire qu'à partir de l'évolution des langues méditerranéennes, on comprend comment une langue évolue. Par exemple, on apprend que le latin, dont nous avons comme ça sommairement l'impression qu'il a évolué à travers différentes branches, l'italien, l'espagnol, le français, le roumain, etc., en fait, était déjà fractionné. Et en analysant cette écologie des langues, cette évolution quasi biologique des langues, vous apprenez, vous, linguiste, un certain nombre de choses fondamentales sur l'évolution des langues.
Le latin, c'est un bel exemple, parce que à l'origine, disons 400 ans avant Jésus-Christ, le latium, dans lequel on parle le latin, c'est un minuscule confetti. C'est pas plus grand que Paris, si vous voulez, aujourd'hui. Et il y a des tas d'autres langues autour du latin. C'est une langue de paysans. D'ailleurs, quand on regarde les traces de la langue latine, c'est vraiment... Quand on imagine que le mot qui désigne aujourd'hui la ville, hein, ville, vient d'un mot latin, oui, la villa, ben, si vous voulez, qui veut dire maison de campagne, enfin bon, c'est, ou ferme même. Et ça, c'est une première leçon. C'est-à-dire que subitement, cet empire va s'étendre, va faire disparaître d'autres langues sous elle. Et va donner... Bon, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, vous l'avez bien dit, nous sommes en train, vous et moi, de parler latin, là. Mais ça n'est pas tout à fait le même latin que celui qu'on parle à Rome, ou à Lisbonne, ou à Madrid, vous voyez. Donc, les langues ne meurent, on dit langue morte. Les langues ne meurent pas, elles se transforment. Enfin, sauf si jamais on tuait tous les locuteurs d'une langue, enfin, c'est un problème.
Et en même temps, ce qu'on apprend en vous lisant, c'est que le latin s'est très très vite diversifié. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a duré pendant plusieurs siècles en tant que latin avec un grand L, mais non, pas du tout. Dès le départ, il s'est métissé, il s'est hybridé dans toutes les directions qu'il a prises.
Mais quand on dit que le français vient du latin, il vient sûrement pas du latin cultivé de Rome. Il vient du latin parlé par la soldatesque, enfin un latin qu'on appelle vulgaire, enfin techniquement.
Un patois.
Oui, enfin le parler des soldats, quoi. De la même façon que le français qu'on parle dans les banlieues parisiennes n'est pas le même que celui qu'on parle au Collège de France. Enfin,
bon. Et on part du principe qu'il n'y a pas de langue pure, entre guillemets.
Non, mais ça n'existe pas. La notion de pureté n'existe pas.
Thank you. Voilà, nous voilà en Égypte, toujours sur les bords de la Méditerranée. Cette Mare Nostrum qui nous permet aujourd'hui avec vous, Louis-Jean Calvet, ce voyage des langues dans l'espace méditerranéen. Alors ce livre que vous sortez dans 3 jours exactement, La Méditerranée, mère de nos langues, nous permet également de préciser nos connaissances et d'en avoir une synthèse concernant les origines de nos langues, on vient d'en parler rapidement, mais aussi les origines de l'écriture, car il y a eu beaucoup de recherches pendant le dernier, on va dire, demi-siècle sur l'origine de l'écriture, et on s'aperçoit que l'alphabet est une création méditerranéenne.
Oui. En gros, l'écriture est née en 3 endroits dans le monde, sans aucun rapport. D'une part en Chine, les caractères chinois. D'autre part en Amérique centrale, les Mayas avaient inventé une écriture. Je dis bien écriture et pas alphabet. Hein. Et puis, en dernier lieu, l'ensemble des alphabets. Il y en a des dizaines d'alphabets dans le monde, mais tous viennent d'une même invention méditerranéenne. Et d'ailleurs, le mot alphabet, bon, ça vient des 2 premières lettres de l'alphabet grec, alpha et bêta, mais alpha, aleph en arabe, aleph en hébreu, ça veut dire en sémitique le bœuf. Et on assiste à une lente transformation de cunéiforme. Alors celui-ci, c'était une tête de bœuf. Imaginez, pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas les gestes que je fais, imaginez un majuscule, mais à l'envers, la tête en bas, si vous voulez.
C'est un triangle avec 2 petites cornes.
Avec les cornes, bon. Ouais. Et ça a lentement évolué. Ça, c'est parti de 90 degrés vers la droite, ça donnait la lettre. Mais c'était le nom du bœuf. Donc la lettre a gardé le nom de l'animal que le premier dessin désignait. Bêta, c'est pareil, bête, c'est la maison, hein, en hébreu, en arabe. Et le dessin, c'était une sorte de carré avec une porte qui a donné la lettre B. Bon. Et tout ça, ça a donné des tas d'alphabets différents, jusqu'au cyrillique. Hein, lorsque le moine Cyrille, au 9e siècle après Jésus-Christ, va faire de la catéchèse dans les pays baltes, il invente un alphabet à partir de ce qu'il connaît, c'est-à-dire le grec, effectivement. Bon. Donc, on en a qui s'écrivent de gauche à droite, c'est le cas de l'alphabet latin, d'autres de droite à gauche, c'est l'hébreu, l'arabe. Il y en a qui allaient dans les 2 sens. On allait au bout de la ligne et puis on partait. Ça s'appelait une écriture en boustrophédon.
Boustrophédon.
C'est-à-dire le chemin que fait le bœuf
pour le labour.
Lorsqu'on laboure, il arrive au bout du champ et il repart dans l'autre sens. Mais tous les alphabets du monde viennent de là. C'est une invention proprement méditerranéenne, plus précisément mésopotamienne. Hein.
Et vous nous montrez bien, d'ailleurs, par une série de petits schémas, comment on passe de ce triangle avec ses 2 petites cornes à ce qui est l'aleph ou l'alif, et comment petit à petit vient se former l'alphabet, c'est-à-dire on bascule de la représentation au son et à un module qui va se composer à d'autres modules.
Oui, enfin, pour prendre un mot un peu pédant, on l'appelle l'acrophonie, mais les gens comprennent que l'acropole, c'est le haut de la ville, l'acropolis, la ville. Bon. Et l'acrophonie, c'est le haut du son, c'est-à-dire qu'il y a une époque où un signe notait une syllabe, par exemple bateau, enfin bas, et puis peu à peu, on a pris le premier son de la syllabe, B, et ça signifiait B. C'est comme ça qu'on arrive d'une écriture syllabique à une écriture alphabétique. Alors, ça serait mieux à la télévision pour l'expliquer, mais il suffit d'acheter le livre, de toute façon.
Et puis, alors, ce qu'on comprend aussi, c'est à quel point l'invention de l'écriture est liée au commerce. Et ça nous ramène à la Méditerranée.
Oui, alors ça, c'est drôle, parce que on croit instinctivement comme ça que comme le mot lettre et le mot littérature sont, ont la même origine, on a inventé l'écriture pour la poésie,
pour communiquer.
C'était d'abord les contes, le fric, en gros, et puis la religion. Ouais. Hein, les textes qu'on voulait garder, mais d'abord les premiers textes qu'on a, c'est des inventaires de caves, de troupeaux, etc., des lois, les récits, des batailles, enfin le pouvoir, quoi. Mm-hmm. Et ensuite le pouvoir religieux. C'est beaucoup plus tard. Là, on est toujours dans la tradition orale du côté de la poésie, alors qu'il y a 10-15 siècles, on sait déjà écrire.
Alors on met autant de signes, autant de bœufs, autant de têtes de bœufs que on vend de têtes de bétail.
Ah ça c'est sur les bulles, cunéiformes. C'est-à-dire que lorsqu'on passait un contrat, on va me livrer dans 3 mois un troupeau de moutons. Il y aura 150 moutons. On prenait une bulle d'abord et dedans on mettait 150 petits cailloux. Et comme ça, quand on me livrait le troupeau, je cassais la bulle, je comptais les cailloux. Et ensuite on a écrit dessus, on a imprimé dans l'argile dessus. Une tête de mouton, 150 fois. Et ça faisait double emploi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire ces tablettes cunéiformes.
Alors ce livre est plein d'histoires absolument merveilleuses et il rend hommage aux inventeurs, en quelque sorte, de la première Méditerranée. Ce sont les Phéniciens, car nous ne savons pas, enfin moi je ne savais pas avant de vous lire, à quel point nous sommes tributaires de ce qu'ont fait les Phéniciens pendant de nombreux siècles. On l'a oublié, puisque Carthage phénicienne a été vaincue par Rome, et ça fait partie des histoires qu'on a un peu mises de côté.
Alors, pour que les auditeurs se fassent une idée, il faut voir l'actuel côte du Liban. Hein. C'est là qu'il y avait Byblos, qu'il y avait Sidon, qui étaient des ports phéniciens. Les Phéniciens étaient des commerçants. Hein. Au départ, c'est pas du tout, ce ne sont pas des envahisseurs militaires.
Donc, ils allaient partout.
Ils allaient, enfin, surtout sur la côte sud de la Méditerranée. Ils allaient jusqu'en Espagne. Ils ont même passé Gibraltar. Ils sont allés à Tanger et puis un peu plus loin. Ils faisaient du commerce. Ils se sont installés plus durablement à Carthage. Phénicien, c'est une appellation grecque. Hein. C'est un mot qui signifie en grec la couleur pourpre. Parce qu'ils faisaient entre autres des teintures, les Phéniciens.
Ah oui, ils faisaient le commerce.
Mais les Latins les ont appelés les Puniques. Et donc, à propos de Carthage, on parle des guerres puniques. Mais à Carthage, c'est devenu là un empire commercial et militaire. Mais évidemment, ça a marqué durablement la toponymie d'abord. Les noms des lieux, des ports.
Quel lieu, par exemple?
Ma ville natale, Bizerte, qui était Hippo Zaritus, et qui a donné, comme il n'y a pas de paix en arabe, ça a donné Benzert, et en français Bizerte, mais il y en a Tanger, enfin, est un mot d'origine punique ou phénicienne. Donc ça, c'est la première expansion.
Et est-ce que les Phéniciens ont laissé une trace dans la langue parlée? Parce que là, il s'agit des noms.
Alors, il y a des gens qui disent...
Dans l'arabe, dans le latin,
y a des gens qui
le
disent
grec.
Quelques mots en grec et en latin, mais il y a des gens qui disent qu'en arabe, tunisien, algérien, il y a du phénicien. Je défends la thèse contraire, mais enfin, je ne veux pas l'exposer ici, c'est dans ce livre. Mais il y a de toute façon beaucoup d'emprunts, évidemment. Et puis surtout, l'écriture libyque. C'est-à-dire qui a donné le tifinagh. C'est-à-dire cette écriture très, très géométrique qu'utilisent les berbères aujourd'hui. Enfin, le tamashok.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Voilà, avec la belle voix de Dorsaf Ramdani, nous voici justement en Tunisie. Louis-Jean Calvet, donc nous évoquons ces langues de la Méditerranée. Vous parliez à l'instant du berbère ou des berbères, parce qu'il y avait ces langues perdues. Alors c'est aussi, quand on lit la grande histoire par le biais des langues, ce que l'on déterre, c'est ces langues. Alors le berbère n'est pas perdu, mais c'est une langue aujourd'hui minorée. D'ailleurs, minorée politiquement, parce qu'il y a aussi des enjeux politiques dans les langues, très forts.
Mais quand on y réfléchit, les Arabes, qui sont les premiers envahisseurs du Maghreb, sont arrivés au 7e siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire ça fait 14 siècles bientôt, le berbère est toujours parlé. Il a été repoussé vers les montagnes, la Kabylie en Algérie, l'Atlas au Maroc, mais on en trouve jusqu'en Égypte, il y a deux ou trois oasis, Siwa, etc. Qu'une langue résiste 14 siècles à une invasion, c'est extraordinaire. Mais il y a aussi le fait que les Arabes, qui étaient des soldats, sont arrivés sans femmes, et que la population maghrébine est finalement berbère. Les Arabes envahisseurs ont épousé des femmes berbères.
On voit bien qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques, y compris pour aujourd'hui. Alors, l'histoire, on peut se régaler en lisant votre livre « La Méditerranée, mère de nos langues ». Il y a plein d'épisodes et puis il y a des mots que vous prenez. Alors, juste un mot sur l'huile, par exemple, qui est un mot typiquement méditerranéen.
Les Français ne s'en rendent pas compte, mais le mot « huile » et le mot « olive » a strictement la même étymologie latine. Or, dans toutes les langues des Méditerranées, je vais en prendre juste un exemple. En arabe, « zit », c'est l'huile, « zitoun », c'est l'olive. Alors, on dit parfois zitzetoun, huile d'olive, mais c'est un pléonasme. L'huile est nécessairement d'olive. Voilà, c'est pareil en grec, c'est pareil dans toutes les langues de la Méditerranée. Bon, en espagnol, ils ont même emprunté le mot arabe, feit, afetoun, etc. Donc il y a ça qui est une sorte de bien commun sémantique de la Méditerranée, mais on trouve aussi les noms de villes. Les Grecs, qui étaient un peu feignants, quand ils créaient une nouvelle ville, ils l'appelaient Villeneuve. Alors en France, on a beaucoup de Villeneuve, mais on a aussi des Neuvilles ou des Neubourgs, vous voyez. Et dans un cas, c'est au nord. Neuville, c'est sur le modèle germanique, Newton. Et dans le sud, Villeneuve, c'est sur le modèle latin. Alors les Grecs l'appelaient Néapolis. Néapolis, nouvelle ville. Bon, ça a donné Napoli en italien, c'est-à-dire Naples aujourd'hui. Ça a donné Nabeul en Tunisie, ça a donné Nablus en Palestine. Et il y en a plein comme ça qui parfois qui ont été traduites. On va trouver en turc des villes créées par les Grecs, mais on l'a traduit en turc, l'appellation. Donc on a tout ça qui fait qu'on a un bien commun sémantique ou lexical, un bien en partage.
Alors les politiques aujourd'hui à l'intérieur de la Méditerranée, de traduction par exemple, reflètent ce qui est un véritable combat, qui continue d'être un combat entre langues, car on traduit beaucoup plus certaines langues que d'autres, dans un sens que dans l'autre. Ouais. Et il y a là aussi, pour aujourd'hui, quand on travaille l'histoire par le biais des langues, ça a un effet de révélateur aussi.
Oui, c'est-à-dire que quand on regarde les flux de traduction, on se rend compte, hélas, et ça explique des choses très contemporaines, que les pays arabes traduisent très très peu. L'ensemble des pays arabes traduisent beaucoup moins que la Grèce, qui a moins de 20 millions d'habitants, hein, et 350 millions dans l'ensemble des pays arabes, publient surtout des ouvrages religieux, ce qui explique beaucoup de choses politiquement. On n'est pas là pour parler de ça, mais c'est intéressant de voir.
Il y a un phénomène d'enfermement.
C'est ça, absolument, oui. Et si on ne s'ouvre pas sur l'autre, en traduisant ce que l'autre pense, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Mais il y a eu une époque, à l'époque de la grande époque de Bagdad, au 9e siècle après Jésus-Christ, où on traduisait essentiellement vers l'arabe. Depuis le grec, depuis le syriaque, et le centre de la science était arabe. Et puis, 11e siècle, 12e siècle, on traduit vers le latin, et c'est fini, la science change de rive de la Méditerranée.
Alors, Louis-Jean Calvet, nous avons au bout du fil un artiste qui est éminemment ouvert sur l'espace méditerranéen, et c'est Mickaël Barcelo, qu'on a le plaisir d'avoir en ligne. Bonjour Mickaël Barcelo.
Bonjour.
Alors vous êtes ouvert sur l'univers visuel de la Méditerranée. Je sais que vous vous intéressez aussi aux langues, mais en tant que Minorquin, et votre exposition, le titre même de votre double exposition actuelle à Paris montre à quel point vous êtes méditerranéen, puisqu'elle s'appelle Sol y Sombra, et Sol y Sombra, c'est une référence directe à la corrida, et c'est le thème de plusieurs tableaux, d'ailleurs magnifiques, que vous présentez au sein de cette exposition. Est-ce que vous-même vous considérez comme un artiste éminemment méditerranéen?
Comment dire, j'ai même pas choisi, ça c'est comme ça. Je suis de Majorque, de Majorque.
Ah oui, pardon.
Je suis au sud de Majorque. Et Sol y Sombra est un mot castillan, mais c'est aussi le terme torrent pour la tauromachie, mais c'est aussi les places bon marché et les places chères des arènes. C'est-à-dire quand les publics vont aux arènes, ils trouvent les places de sombra assez chères, parce que les ombres sont chères, et les places de soleil sont beaucoup plus abordables.
Et alors, Sol y Sombra, c'est pour la classe moyenne, c'est ceux qui ont un petit peu d'ombre pendant le spectacle, et le soleil arrive.
Mais plutôt l'ombre. À la fin, tout le monde est à l'ombre.
Ah, d'accord.
Parce que ça
faut
se passe
patient.
À partir de la 5 de la tarde, à 5 heures de l'après-midi, comme... et l'ombre recouvre l'arène. Mais plutôt que moi, ça m'intéresse plutôt la reine que le spectacle. Comment dire, moi, j'aimais bien l'ombre et la lumière dans ça. C'est comme un horloge, une reine.
Alors, Mickaël Barcelo, vous, est-ce que vous vous sentez véritablement méditerranéen dans votre art? Ça semble, vu de l'extérieur, évident. Par exemple, le travail que vous faites de la terre cuite, qui est un travail où vous détournez en quelque sorte la terre cuite, vous l'écrasez, vous la triturez, vous faites même un autoportrait en terre cuite qui est transpercé de pinceaux et de couteaux de peintre. Ça, c'est très méditerranéen, ce travail de la terre.
peut-être, mais vous savez, j'ai appris à faire tout ça au Mali, chez les Dogons en Afrique. Alors, comme quoi, ça vient de plus en bas que là. Mais c'est, ça me ramène à une vieille tradition méditerranéenne, et je sais pas, jusqu'à sumérienne, si on veut. La terre cuite, c'est la première forme de peinture qu'on, la terre, et la première forme de peinture qu'on trouve sur la terre. Moi, ma référence principale, je dirais, c'est la grotte Chauvet, que c'est une œuvre qui a 36 000 ans. Et c'est de l'argile dessinée avec les doigts et ensuite travaillée avec des pigments et sgraffiée. Mais c'est une forme de terre sèche.
Alors, Miquel Barcelo, dans cette double exposition, ce qui transparaît aussi, c'est un formidable appétit qui est le vôtre pour toutes les formes d'expression, pour tous les horizons.
Probablement. Mais c'est comment dire, c'est des techniques différentes de peinture. Je pense que la peinture a hérité un peu de tous ces bric-à-brac de 19e. Et maintenant, tout est devenu technique picturale, comme même la cinématographie, la photographie, toutes ces choses, la sérigraphie ou la lithographie, c'est des techniques de la peinture.
Alors, vous utilisez la céramique, la sculpture, la peinture, l'œuvre imprimée, le dessin. Et je me souviens même que vous utilisez des vieux parchemins que vous emmenez avec vous en voyage et que vous peignez quand vous êtes en voyage.
De parchemins, parce que bon, c'est une vieille. Oui, ça marche toujours très bien. Ces vieilles techniques, ils sont vieilles parce qu'ils marchent bien depuis longtemps. Sinon, ils seraient déjà oubliés. Alors, le parchemin, c'est un support, c'est de peau d'animal préparée pour peindre. C'est depuis millénaire, on utilise ça, les papyrus et tout ça, c'est un peu plus vieux. L'argile, par contre, l'écriture sur terre, de fois, on dit terre cuite, mais c'est que de terre sèche au soleil. Et c'est ça que j'ai fait à la Bibliothèque nationale, j'ai barbouillé toutes les vitraux, les 1000 mètres carrés de vitrail de la grande verrière, pour dessiner dessus avec mes doigts d'abord, et mes mains et mes bras, pour faire une espèce d'écriture qui, que la lumière, le soleil projette sur les murs de la bibliothèque. Et j'ai trouvé ironique que ça soit cette forme d'écriture avec un poinçon ou avec une ongle sur l'argile qui produit la peinture. Cette alchimie ou cette transformation, ça devient peinture.
Merci Miquel Barcelo. Donc, du droit qu'a un artiste d'inventer sa propre écriture. On peut voir donc ces deux magnifiques expositions, Sol y Sombra, en ce moment même à Paris, au musée Picasso et à la Bibliothèque nationale François Mitterrand.
Una noche río paso, ay carmela, ay carmela. Una noche río paso.
Voilà, on va terminer cette émission avec Zebda, El Paso del Ebro, Louis-Jean Calvet. Malheureusement, il ne reste plus de temps. On va quand même dire juste 10 secondes qu'il ne faut pas sacrifier l'enseignement des langues, que c'est essentiel. C'est la chair même de la pensée et de la relation humaine.
Il faudrait aussi et peut-être surtout accepter notre situation méditerranéenne, parce qu'on propose surtout dans les lycées français ou dans les collèges de l'anglais, de l'allemand, mais pas du tout de l'arabe de l'autre côté.
Alors, ça, c'est un des grands scandales en France, oui. La médiocrité de l'enseignement de l'arabe.
Oui, parce qu'on enseigne un arabe classique que personne ne parle, alors qu'on a des populations de migrants qui, elles, parlent un vrai arabe populaire, qu'il soit tunisien, marocain ou algérien.
Une situation souvent signalée, mais qui n'a pas beaucoup évolué.
Voilà, et c'est, encore une fois, c'est pas étranger à ce qui se passe politiquement aujourd'hui. Parce que lorsqu'on a on est entre deux chaises culturelles, la culture du pays d'accueil et celle du pays d'origine, on est mal à l'aise. Et il faudrait intégrer ces gens-là.
Voilà, une fois encore, le travail sur la langue est un très bon révélateur de ce qui est à l'œuvre dans les sociétés. Merci Louis-Jean Calvet. À lire votre livre passionnant, La Méditerranée, mère de nos langues, qui paraît dans 3 jours aux éditions du CNRS.
Merci.
Nous terminons du côté de la Grèce avec Maria Simoglou et son Rebetiko.
Simoglou.
C'était Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Jason Taous, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, vous est proposé par Marie-Hélène Fraissé. N'oubliez pas de consulter notre page sur le site France Culture, très nourrie et qui vous mènera vers beaucoup de pistes d'informations personnelles. Et sur France Culture, vous avez rendez-vous maintenant avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.
Πάψε να μ' αγαπάς, δε σε θέλω στο πάμια και δυο, βρες αρχόντο μάγκα.